Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Point & Think. Je suis Julien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette nouvelle interview avec Marine Mack. Marine, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes dans le domaine du jeu vidéo et dont on suit le travail depuis longtemps maintenant et dont on est très fan. Elle est entre autres galeriste avec son site notamment Gamma. Elle est aussi autrice et assistante éditoriale chez Pix & Love et elle a tout récemment créé les Video Game Master. C'est vraiment une spécialiste de tout ce qui va toucher au concept art et même de manière plus générale à toute la réflexion autour de comment on utilise l'art dans le jeu vidéo, comment les concept art sont utiles. Elle donne aussi des cours, donc c'est vraiment quelqu'un qui a par passion d'amener la théorie du concept art dans le jeu vidéo, aussi bien au professionnel du coup qu'au grand public, d'où les Video Game Master. Et c'est un petit peu pour tout ça qu'on voulait revenir avec elle un peu sur sa carrière, sur ce qu'elle faisait, sur l'intérêt du concept art pour un peu mieux l'expliquer. Revenir un petit peu sur les Video Game Master, un de ses derniers projets en date, son travail au sein de Pix & Love, et puis vous en doutez, hein, plein d'autres choses. Donc sans plus attendre, on se retrouve après ce petit extrait musical pour l'interview. Marine, merci d'avoir accepté du coup notre invitation pour participer à notre podcast.
Salut Julien, avec plaisir d'être là.
Pour te présenter rapidement, tu es aujourd'hui autrice, curatrice d'exposition, tu es aussi éditrice chez Pix & Love et tu présentes depuis novembre dernier les Video Game Master au Forum des Images. Du coup, tu as plusieurs casquettes, comme c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours pour te présenter ?
Alors, est-ce qu'il faut que je remonte loin ou très très loin ?
L'an de grâce 1900, non peut-être pas.
Ouais, c'est ça.
Pour donner un petit peu une idée.
Pour donner une petite idée, effectivement, donc j'ai fait des études en histoire de l'art et en communication journalisme, avec une passion avérée pour le cinéma et le jeu vidéo, en tout cas l'art du jeu vidéo. Et donc après ces études et le mémoire de recherche que j'ai écrit sur le sujet, je me suis lancée dans la création de ma propre galerie d'art, qui était donc Pixel Life Stories à l'origine, qui est aujourd'hui nouvellement nommée Gamma. Et avec cette galerie d'art, donc, j'organisais un certain nombre d'expositions qui ont été d'abord en ligne et puis ensuite physiques. J'ai commencé à développer pas mal d'événements pour mettre en valeur à la fois les artistes et les savoir-faire de l'industrie. Et puis, ça m'a amené à la création de mon premier ouvrage, Imaginaire du jeu vidéo, où là, je parle un petit peu de ce métier de concept artiste appliqué à l'industrie. J'ai aussi commencé à faire pas mal de publications pour des entités diverses et variées, que ce soit des institutions culturelles ou des émissions comme Jour de Play sur Arte, par exemple. Et puis, me voilà aujourd'hui à travailler dans une maison d'édition et à avoir le plaisir d'écrire et d'éditer mes propres artbooks de jeux vidéo. Donc, la boucle est bouclée, on va dire.
Et pour revenir un petit peu sur le premier livre que tu mentionnais, c'est ton premier livre, Imaginaire du jeu vidéo.
Ouais.
C'est un livre qui a été coédité avec Entre Faire d'Edition et Le Cercle d'Art.
Tout à fait.
Et j'ai l'impression qu'au final, c'est une bonne introduction à ton métier, à ce que tu veux faire, mais aussi au concept artiste. Mm-hmm. Un petit peu c'est entre le beau livre, l'artbook, et un petit peu le livre académique, dans le sens où ça explique un petit peu qu'est-ce que c'est le concept art, comment il travaille. Est-ce que tu peux revenir un peu avec moi sur le choix éditorial de ce livre, du coup, d'apprendre ces textes-là, et de s'axer uniquement sur les artistes français aussi ?
Alors, ce livre-là, ça faisait un petit moment en fait que j'avais envie d'écrire un ouvrage sur le concept art. C'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai une admiration réelle pour les concept artistes qui arrivent à exprimer des idées très fortes en des images absolument sublimes. Et le fait est que j'avais du mal à trouver le temps de développer cette réflexion-là. Je l'avais commencé dans le cadre de mon mémoire de recherche, mais après en commençant le travail de terrain, c'était pas facile de concilier la recherche et les expositions. Et puis, en 2020, bah, y a le grand effondrement Covid. Je me retrouve à avoir beaucoup de temps devant moi, forcément. Et c'est là que je me suis mis sérieusement à vouloir écrire cet ouvrage. Donc, j'ai pris contact avec pas mal de studios dont j'admire le travail, avec qui j'avais envie vraiment de bosser. Je leur ai parlé de ma démarche, qui était celle de proposer un premier livre sur le concept art, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore, en tout cas pas de livre français. Il y avait déjà quelques tentatives, notamment anglophones, mais ça prenait plutôt la forme de livres un peu tutoriels, tu sais, sur... comment est-ce qu'on mène une carrière d'artiste, les petits tips à avoir, voilà. Enfin, c'était une approche très différente. Moi, c'était presque... il y avait un mélange de deux approches, c'est-à-dire une approche un peu historiographique, de revenir un petit peu sur l'histoire du métier, comment ça s'était en tout cas implanté en France dans l'industrie du jeu vidéo, et puis une approche peut-être un peu plus pratique, qui la résultait des études de terrain que j'avais pu faire à ce moment-là, de pouvoir montrer concrètement ce que c'était qu'être concept artiste de jeux vidéo en France, voilà, donc, quel que soit le studio, que ce soit un petit studio, gros studio, quel que soit la DA du projet ou le genre représenté. Et on ne va pas se mentir, c'était quand même un gros dossier, un gros projet. Ça restait mon premier livre, donc je ne faisais pas trop la maligne. Je ne savais pas s'il y avait des gens qui seraient intéressés par ce sujet-là et qui seraient réceptifs. Donc, je me suis dit, il faut que je crée un cadre, que je trouve une forme originale pour parler de ce sujet-là, que je pose un cadre. Et c'est ce qui m'a poussée, en fait, à me concentrer sur les concept artistes français, notamment. Je me suis dit que ça ne servait à rien de partir dans un trop-plein, d'expérimenter, questionner un peu tous les continents à ce sujet-là, parce que d'un pays à un autre, on ne travaille pas forcément de la même manière. Donc, je me suis dit, autant se concentrer vraiment sur ce qui se passe en France. Puis bon, Covid oblige, tout se fait à distance, donc on ne peut pas forcément aller rencontrer les équipes. Donc, je pense que, étant donné le contexte, c'était ce qui faisait le plus sens, en fait, de me concentrer sur nos talents de chez nous. On va dire.
Non, puis je pense que ça se faisait assez naturellement, déjà avec deux éditeurs français. Et c'est vrai que on le voit peu, mais on le découvre. Nous, on le découvre en tout cas au fur et à mesure avec Point & Think. C'est qu'on a énormément d'artistes français qui ne travaillent pas en France, pour le coup, qui sont vraiment dans le monde. On a eu, on a eu ne serait-ce que dans tous les corps de métier, mais on a eu Simon Vasselin qui travaille à Remedy. Mm-hmm. On a eu aujourd'hui, pour le coup, le directeur artistique de Lord of the Fallen qui est aussi français. Donc, on voit que c'est un savoir-faire quand même qui s'exporte bien, un savoir-faire français.
Petit coucou à Alexandre Chaudret, du coup.
Et je pense qu'aussi, tu voulais apporter quelque chose qui est... on en reparlera quand on parlera de Pix & Love. Mais déjà ici, tu voulais apporter autre chose que l'artbook qu'on voit un petit peu traditionnellement. J'ai l'impression qu'il y a... Si on monte ne serait-ce que 10 ans en arrière, un artbook, c'était... en anglais, on appelle ça un coffee table book. Donc, c'est vraiment un livre que tu mets sur ta table basse pour regarder des jolies images. Mais ça s'arrêtait là. Je pense que le plus gros cliché, c'est un peu les livres de From Software, qui sont magnifiques, mais où il n'y a absolument aucun texte. T'aimes pas le nom des artistes. C'était un petit peu ça aussi, la volonté que tu avais pour...
C'est toujours... moi, c'est un regret que j'avais. C'est-à-dire que j'étais passionnée, admirative du travail qui était fait au sein des départements artistiques, mais pas que, dans l'industrie. Et parallèlement, quand j'achetais des artbooks pour voir leur travail... Alors oui, je pouvais le voir, c'est vrai, mais le plaisir était seulement visuel. C'était pas évident de toujours comprendre leurs intentions ou leurs démarches, parce qu'il n'y avait jamais de médiation finalement entre l'image et nous en tant que lecteurs, puis joueurs aussi. Et ça, c'était toujours un regret de ne pas avoir l'accréditation des artistes, de ne pas avoir ne serait-ce que des interviews ou même une préface, en fait, tout simplement un petit mot pour accompagner l'aboutissement d'un projet qui se passe souvent sur plusieurs années de production. Donc, c'est un vrai regret. C'était pas, pour moi, c'était encore une démarche qui était très commerciale. En fait, on met en avant une licence, un studio, un nom, mais le collectif s'efface derrière. Et moi, ce que je voulais, c'était des ouvrages qui mettent en avant le collectif. Donc, je voulais renverser un petit peu cette tendance-là. Et c'est ce qui m'a poussée, effectivement, à vouloir développer un premier ouvrage. Alors, je reste humble, c'est le premier. Donc, il a aussi ses défauts. Mais en tout cas, de pouvoir visibiliser des personnes et des savoir-faire qui sont souvent restés dans l'ombre au travers de ces quelques productions.
Et c'est nécessaire, bah, je pense, de manière globale dans le jeu vidéo, bah, notamment avec les artistes, mais même de manière générale. On va avoir, par exemple, avec le... Je fais souvent la comparaison avec le cinéma, parce qu'on a cette vieille rengaine entre jeux vidéo et cinéma, pour le coup, de l'un n'est pas art, etc. On va pas rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que dans le cinéma, on va par exemple aller faire des tours sur IMDb ou n'importe où pour voir qui a été le directeur photo de tel film. Et on commence à connaître ces noms-là quand on s'intéresse un peu au cinéma, les directeurs de la photo, des techniciens pour le coup. Là où dans le jeu vidéo, à part quelques exceptions, je parle vraiment quand on s'y intéresse pas, mais on va avoir des gros game designers qui ressortent, certains, des hommes. Mais dès qu'on va avoir par exemple une patte artistique qu'on aime bien, on va se dire, ah tiens, c'est la patte de Arkane, c'est la patte de CD Projekt, sans avoir le nom de l'artiste pour le coup, pour pouvoir continuer derrière, sachant que les trois quarts font des illustrations en plus pour leur, bah, de leur côté. Certains travaillent dans le comics, dans la bande dessinée. Donc c'est là où je pense que ton travail il est vraiment important. Et bah, notamment, tu avais fait aussi, tu avais été curatrice d'exposition. Et justement, bah, qui est un petit peu une autre forme aussi pour mettre en avant, bah, le travail des concept artistes. Est-ce que tu peux revenir un petit peu avec moi sur, bah, qu'est-ce que c'est d'être curatrice d'exposition pour des œuvres de jeux vidéo? Du coup, comment tu voulais faire ça? Est-ce que c'était plus des concept arts, certains artworks? Comment tu travaillais à ce niveau-là?
Bah, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que j'ai commencé par faire de l'exposition. Aujourd'hui, je fais du livre et je me rends compte qu'il y a une vraie continuité finalement entre les deux. Même si aujourd'hui, je m'exprime plus entre les pages que dans un espace à proprement parler, il y a quand même beaucoup de parallèles entre les deux. En tout cas, ce que je voulais pas faire quand j'ai commencé par l'exposition, c'était tomber dans une approche, comment dire ça, une approche scénographique un peu beaux-arts. Même si évidemment il y a des ponts énormes entre jeux vidéo et beaux-arts, et c'est ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne voulais pas, justement, si on parle du concept art par exemple, hein, qui sont donc ces fameuses images qu'on crée en amont d'un projet pour aider les équipes de production à se projeter un peu dans l'univers qui va être à produire, je ne voulais pas qu'on les expose comme de simples peintures. Ce sont des peintures, c'est vrai, mais ce sont aussi des supports de conception, des documents de design. Et j'avais peur qu'en les exposant comme de simples peintures, on passe à côté de la fonctionnalité en fait, de l'objet, du matériau. J'avais peur qu'on oublie ce pourquoi ils ont été créés. Avant une lecture poétique, c'est aussi une lecture technique qu'il faut faire de ces travaux-là. Donc l'idée, en tout cas, moi, quand je parle effectivement de développement visuel ou graphique d'un projet dans une exposition, j'essaye de vraiment montrer les liens entre des recherches plastiques, graphiques, et les spécificités de gameplay d'un projet. C'est-à-dire que je pars du gameplay, du game design, ok, quelle expérience ludique est-ce qu'on met en place? Et une fois qu'on a compris en fait l'expérience qu'on veut monter, c'est comment les artistes ont essayé de retranscrire ça visuellement, quel choix de design graphique ils ont fait pour accompagner en fait cette démarche-là. Donc les peintres qui travaillent sur la création d'un jeu, par exemple, ils ne travaillent pas comme des peintres traditionnels qui créent des pièces visuelles pour ensuite les mettre en musée. On est sur quelque chose de totalement différent et il fallait montrer cette différence-là. Donc dans les expositions que j'ai pu créer, effectivement, alors oui, il y a des concept art qui sont accrochés au mur, mais on va aussi montrer du step by step. On va pouvoir réaliser des vidéos d'entretien aussi avec les directeurs artistiques qui vont éclairer un petit peu leur choix, qui vont presque faire de l'analyse d'image en direct pour revenir un petit peu sur la nature du matériau. Après, tu peux avoir tout un tas de performances. Moi, je sais que j'aime bien justement dans cette idée de mettre en avant un savoir-faire. J'aime bien pouvoir faire venir des artistes sur place qui vont créer une œuvre d'art en direct pour montrer, illustrer la manière dont ils créent une image. Donc c'est vraiment la création en train de se faire, quoi. Voilà, y a un côté un peu instantané qui est chouette, même si souvent il leur faut plusieurs heures pour faire une image, donc on ne peut pas les garder chaque jour dans un musée, les retenir captifs, les pauvres. Mais voilà, dans l'idée, c'est d'essayer de varier pas tant le matériau qui est exposé, mais la médiation qui va derrière. C'est le terme de médiation est vraiment très très important. Il s'agit d'expliquer aux gens ce qu'ils ont sous les yeux, parce que je trouve que c'est pas forcément évident. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai vu pas mal d'expos où il y avait du concept art d'exposé, mais dans un premier temps, je l'avais vraiment reçu comme de la peinture traditionnelle. Et c'est quand j'ai commencé à étudier vraiment le projet dans le cadre de mes études universitaires, que là je me suis dit, ok, en fait c'est bien plus, et ça on me l'a jamais expliqué, donc voilà, se pose la question de comment expliquer ça, et pour l'instant il n'y a pas encore de recette toute faite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on tente des choses, et je pense que déjà dans les 10 prochaines années, en tout cas les 10 années qui arriveront, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions sur la manière de raconter et d'expliquer le jeu vidéo au public.
Non, complètement. Bah, je pense que le parallèle avec les Beaux-Arts est évident à faire sur un concept art fini. Bah, tant certains s'inspirent en plus de certains maîtres et tout, donc tu as un parallèle évident où tu te dis ça, ça pourrait être dans un musée.
De toute façon, un jeu vidéo n'est jamais une page blanche, quel que soit le projet, quelle que soit sa nature ou les ambitions qu'il y a derrière, il y a toujours une phase de recherche très très importante, parce qu'il faut que le projet puisse parler aussi aux gens, donc pour que ça parle aux gens, il faut aller chercher des références qu'ils partagent avec nous, donc on va chercher dans l'imaginaire commun, et c'est là que tout commence en fait, pour chaque projet.
C'est ça, ça va nous faire la passerelle pour aller parler un petit peu de ta rencontre avec Spiders, du travail que tu as fait sur Steel Rising.
Ouais.
On est sur l'opposé du coup de ce qu'on décrivait avant du livre de chevet, pour le coup, du livre avec des images, où tu as apporté un petit peu toute cette médiation que tu expliques, et justement c'est ce que tu couvres un petit peu pour l'exposition, où tu as apporté un mélange d'interviews, un mélange de concept art fini, mais aussi le step by step un petit peu, et montrer comment c'est utilisé aussi le concept art. Il n'est pas juste fait pour être accroché au mur, il va avoir une utilité derrière.
Tout à fait.
Du coup, est-ce que tu peux revenir un peu avec nous sur ta rencontre avec Spiders? Et comment ça s'est passé pour le coup? Parce qu'avec eux, tu étais archiviste, c'est bien ça? Ou documentaliste?
Alors, ouais, c'était pas. J'étais documentaliste de projet. C'est deux intitulés très différents, parce que pour être archiviste, il faut une formation particulière. Moi, je ne suis pas archiviste de formation, donc j'aurais pas la prétention de dire que j'étais archiviste. En revanche, en tant que documentaliste de projet, j'ai eu accès à toutes les archives du studio en vue de l'écriture d'un livre sur leur travail. Donc, pour situer un peu comment ça s'est passé, on est en août. Alors, attends, faut pas que je dise de conneries parce que. on est en août 2021, voilà, c'est bon, pardon, il faut que je m'en mette dedans. Août 2021, je suis tranquille chez moi, je circule un peu sur les réseaux sociaux et là, je vois complètement par hasard passer des concept art justement du studio Spiders, qui étaient en fait des designs de personnages pour le jeu de Steel Rising, qui avait été réalisé par Fragan Tanguy. Donc, j'apprécie énormément le travail et j'ai eu un immense coup de cœur. C'était vraiment... j'adorais l'esthétique des designs. Puis le jeu en lui-même m'attirait beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les productions d'inspiration historique, que ce soit au cinéma ou ailleurs, ces grandes fresques comme ça. Plus il y a de costumes et de froufrous, plus j'aime en fait. Et je sentais qu'il y avait quelque chose pour moi. J'avais beaucoup d'admiration pour le studio, pour Jeanne Rousseau, c'est vraiment une personne que j'estimais beaucoup. Et puis j'avais déjà eu l'occasion de m'entretenir de toute façon avec le studio et son directeur artistique, Cyril Tamasebi, notamment dans le cadre de mon premier livre. En fait, on avait fait une interview ensemble pour voir un peu comment était utilisé le concept art dans ce studio-là. Et donc, après avoir vu passer les designs sur Internet, je me suis dit, mais en fait... Il y a peut-être moyen de travailler avec eux sur leur projet en cours, parce que le jeu Steel Rising n'était pas encore fini. Hein. Il leur restait encore, grosso modo, une grosse année de production. Donc, j'ai pris contact avec Jeanne Rousseau. Je lui ai dit que voilà, j'étais très intéressée par leur prochaine prod et que ça me plaira bien de pouvoir écrire un livre sur ce jeu-là. Elle a tout de suite été réceptive au projet. Donc, on a discuté un peu sur les modalités, la manière de mettre en place cette collaboration. Moi, au départ, je pensais vraiment qu'on allait simplement me donner accès sous réserve de NDA aux archives et puis qu'après, je ferais mon beurre comme je voulais. Et en fait, en discutant, justement, Jeanne m'a proposé d'intégrer pendant un temps donné, donc 9-10 mois à peu près, d'intégrer vraiment le studio en tant que documentaliste de projet. Donc, j'étais salariée chez eux sur un temps donné. Et l'idée, c'était de faire un maximum d'entretiens avec les équipes, d'observer les équipes en cours de travail, en cours de prod, d'étudier donc toutes les archives. Alors, les archives au sens large, hein, ça comprend des peintures, ça comprend des affiches politiques d'époque, ça comprend des maquettes, du prototype, enfin, tout plein de trucs. Et voilà, et donc j'avais 8 mois en gros pour étudier tout ça et en faire un ouvrage. Donc l'idée, c'était d'assurer encore une fois la médiation entre un studio et le public, de montrer la démarche qu'il y a derrière un jeu, la fabrication du jeu, les intentions artistiques, voilà, sans me limiter au département art. Hein. Je suis vraiment allée étudier tout ce qui était relatif au game design, level design, la composition sonore, etc. Et je me suis éclatée. C'était la première fois que je travaillais vraiment in-house, en fait, dans un studio de jeu. Mission accomplie, c'était mon petit rêve de gosse. Donc, j'étais très, très fière de ça. Mais voilà, c'était pour un temps donné. Et voilà, et donc est arrivé ce artbook Steel Rising qui est sorti il y a très peu de temps. Donc, j'espère qu'il saura atteindre son public.
Et du coup, dans ce cadre-là, avec qui tu as pu interagir le plus ? Comme si tu avais pu avoir accès un petit peu à tout, pour le coup. Est-ce qu'il y a des départements ou même des artistes avec qui tu as pu interagir plus que d'autres ?
Oui, bien sûr.
C'était vraiment travail global.
Ouais. J'ai effectivement eu la chance de pouvoir discuter avec à peu près tout le monde dans le studio, ou en tout cas la plupart des chefs métiers des différents départements. J'ai évidemment eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec le département artistique, hein, puisque l'idée, c'était de pouvoir explorer leurs intentions créatives. On fait beaucoup, un exercice que moi j'appelle le commentaire d'œuvre, c'est-à-dire qu'on est dans une salle de réunion, on fait défiler sur grand écran un certain nombre de pièces visuelles qu'ils ont pu produire, et en fait, on fait du commentaire libre, on échange sur ces images-là, pour questionner l'iconographie, la composition, les choix de couleurs, de lumière, les anecdotes de production. En fait, c'est un peu la séquence canapé, tu vois, genre tu te poses et tu parles de tout ce qui te vient. Et on a fait ça, en fait, sur l'ensemble des pièces visuelles de Steel Rising. Et en fait, moi, de tout ça, je retranscris tout et j'essaye de voir ce qui est le plus intéressant à capter et à expliquer, finalement. Donc, c'est vraiment avec les équipes art que j'ai beaucoup travaillé. Donc, Cyril Tamasebi, je pense aussi à Isaac Azentefel, qui a été le bras droit de Cyril, qui fait un travail absolument incroyable. Voilà, il a de l'or entre les mains. Et après, voilà, plutôt les chefs métiers. Donc, ce n'est pas des personnes en particulier. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir une vision globale en fait, du projet pour pouvoir vraiment restituer les différentes étapes, en tout cas de reconstituer le schéma de production en fait, du jeu.
Et ça aurait été quoi un des plus gros challenges que tu as eu du coup, dans cette mission-là ? Parce que tu as eu 9-10 mois du coup, pour faire ça.
Ouais.
J'imagine que tu trouvais une méthodologie peut-être pour faire face à tous ces documents peut-être, pour faire quelque chose.
C'est sûr que, en plus, c'était pas évident parce que le jour où je suis arrivée au studio, il y avait quasiment personne parce qu'on était encore période Covid, tu vois, et j'arrive dans des grands studios magnifiques, tout en verre, tout le tour des murs, là. Et en fait, j'étais toute seule avec la responsable administrative et puis je ne sais plus qui y avait à mon arrivée. Et du coup, je me suis dit, merde, il n'y a personne. Elle me dit, voilà, ton bureau, il est là. Donc, je regarde un petit peu toutes les archives qu'on m'a mis de côté. Et là, je me dis, waouh, ok, en fait, il y a énormément de trucs. Mais je savais que ça allait être le cas parce que, bon, comme toute production d'inspiration historique, forcément, tu sais que les créatifs vont aller chercher beaucoup de matériaux pour s'inspirer. Et là, pour le coup, c'était vraiment vertigineux. Il y avait énormément de choses et je me suis dit, ok, de porte à porte, j'ai 8 mois pour tout faire, en fait. C'est-à-dire pour étudier tout ce que j'ai sous la main, pour m'initier aussi à la période, parce que bon, ok, j'aime bien les productions historiques, mais je ne suis pas historienne et spécialiste de la période révolutionnaire pour autant, tu vois, donc j'ai plein de choses où il faut que je me remette dedans, faire tous les entretiens, trier tout ce qu'il y a à trier, et puis écrire aussi, parce qu'il fallait écrire un livre aussi. Donc, en fait, le délai était assez court pour tout ce qu'il y avait à faire. Donc, je dirais que c'était une petite pression pour moi aussi. Puis, j'étais salariée du studio, donc j'avais pas envie de décevoir. Voilà, j'avais une petite pression quand même, saine, mais une petite pression quand même. Donc, je dirais que c'est ça qui était le plus difficile à gérer, c'est le temps dont je bénéficiais sur le projet. Et malgré tout, c'était tellement dans la vibes de ce que j'aimais, peinture romantique, production historique, etc., que finalement, l'immersion s'est fait très rapidement. Je crois que vraiment, au bout de 2 semaines, je savais exactement où je voulais aller, ce que je voulais faire. Et du coup, je n'ai pas perdu de temps, j'ai tracé. Et je pense que, en tout cas, le livre tel qu'il est dans son résultat final, j'en suis vraiment très fière parce que je trouve qu'on a réussi à parler beaucoup de sujets. Très diversifié. Donc, pour ceux qui aiment le jeu vidéo, qui veulent en savoir plus sur la manière dont on crée un jeu aujourd'hui, je pense qu'il saura se retrouver entre les pages. Enfin, j'espère. C'est très prétentieux dit comme ça, mais j'espère.
On espère, en tout cas. Et ça me permet d'arriver sur des activités un petit peu plus récentes. Comme tu l'as mentionné, on va parler un petit peu aussi de ton rôle à Pixel Love. On abordera un petit peu les vidéos Game Master. Mais avec ce livre-là, du coup, tu as pu commencer à travailler chez Pix & Love. Maintenant, tu t'occupes un petit peu des parties artbook de Pix & Love.
Ouais.
Comment ça se passe, du coup, un petit peu le travail? Comment s'est passée la rencontre avec Pix & Love? Du coup, quel est ton travail là-bas maintenant? Maintenant que Steel Rising est sorti, que le livre est sorti et disponible.
Ouais.
Comment ça se passe?
Comment ça se passe? J'avais du coup ce projet d'ouvrage, Steel Rising. Et donc, on m'a dit effectivement à Spiders, écoute, nous, on est prêt à signer avec toi et à t'engager sur ce poste-là. Il faut simplement qu'on s'assure que le projet livre se fasse derrière. Donc, je les ai mis en contact avec la maison d'édition Pix & Love, avec laquelle j'avais envie de travailler. Et la collaboration s'est faite très spontanément. Ils ont vraiment été intéressés par la démarche. C'est vrai que le fait d'être documentaliste de projet, ça m'apportait un statut qui était un peu différent du simple observateur extérieur. Donc, je pense que les équipes de Pix ont tout de suite compris que ça pouvait amener un livre intéressant. Donc, on a tout de suite engagé la collaboration. Donc, dans un premier temps, j'étais simplement autrice pour eux pendant un an à peu près. Et puis, en fait, au détour d'une conversation assez banale, on discutait au téléphone ensemble. Et puis, c'était un peu le moment de faire le bilan par rapport à ce que j'avais pu faire sur le livre. Et je leur ai dit que moi, j'aspirais un jour à pouvoir développer ma propre collection de hardbooks, que j'avais envie de pouvoir continuer à écrire des ouvrages, mais à pouvoir être rémunérée sur mon travail et justement rémunérée, parce que dans le milieu de l'édition, ce n'est pas toujours comme on le souhaiterait. Et en fait, ils ont été très réceptifs à ma démarche, à ma demande. Et ils m'ont dit, Marine, ça tombe bien que tu dis ça parce que nous, la production de hardbook, on aimerait développer ça chez nous et on aurait besoin de quelqu'un de compétent pour ça. Donc, on serait intéressé à l'idée de travailler avec toi là-dessus. Et donc, j'ai rejoint les équipes de Pix en tant qu'assistante éditoriale. C'était en septembre-octobre de cette année. Donc, c'est tout frais. C'est tout frais, c'est tout récent. L'équipe est absolument géniale, très, très à l'écoute de mes propositions. Donc, moi, je m'éclate. Là, en ce moment, je travaille sur deux livres en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu le livre Steel Rising. Dans la foulée, j'en ai écrit un troisième qui sera bientôt annoncé. Et là, je travaille sur deux livres en même temps, à la fois avec un studio français et à la fois avec un studio anglais, en vue de la création justement de hardbook. Donc, on va dire que ma mission première, c'est de pouvoir développer tout ça, de pouvoir développer ma propre collection aussi derrière. Ça fait partie des beaux projets qui sont en cours. En tout cas, il y a plein de belles choses qui sont en préparation actuellement chez Pix & Love. Pas seulement des ouvrages, mais vraiment des... je vais pas spoiler, mais voilà, en tout cas, il y aura des belles surprises, je pense, pour les personnes qui suivent un petit peu leur production et on prépare un peu du lourd pour la suite. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir travailler avec eux, en tout cas.
Et puis, on a hâte de voir ça. Et tu as répondu, je pense, à une des questions que j'avais sur un petit peu la ligne éditoriale que vous voulez prendre, si vous voulez un petit peu plus axé que sur des studios français ou francophones ou pas que. Mais du coup, tu mentionnes un studio anglais,
pas effectivement à la production française, même si j'aurais toujours à cœur de travailler avec des studios français. Je pense que c'est vraiment eux que j'ai envie de plébisciter en premier. Mais non, on ne se ferme pas. Et puis, effectivement, en termes de ligne éditoriale, la collection à laquelle je réfléchis actuellement sera vraiment une collection dans laquelle, encore une fois, on va mettre en avant le collectif. On ne sera pas du tout dans une logique de hardbook goodies, avec juste des jolies images et ça s'arrête là. De toute façon, Pix & Love a toujours voulu, pour chacun de ses livres, faire un travail d'investigation derrière. Donc, on reste dans la continuité de l'histoire de la maison d'édition, mais cette fois appliquée à la direction artistique et à nous de trouver la ligne qui nous correspond le plus. Mais en tout cas, c'est vraiment ce sur quoi je réfléchis et je médite beaucoup en ce moment. C'est un gros travail où il faut s'investir, être concentré, essayer de se projeter aussi sur le long terme. Et c'est vraiment passionnant à faire, en tout cas.
J'imagine un peu la frustration aussi des fois de se projeter justement sur tous les studios avec qui tu pourrais vouloir travailler, mais aussi faire
Ouais.
une sélection, du coup, entre ceux qui voudraient, ceux que tu pourrais, et à la
Ouais.
fin faire des choix. Ça doit être intéressant aussi.
Bah écoute, je t'avoue que je me mets pas trop la pression par rapport à ça. Alors, je sais pas, je me dis que j'ai une bonne étoile quand même, mais même si les débuts ont été un peu difficiles parce que c'était pas forcément un métier qui était encore très très reconnu, mais j'ai la chance de travailler avec des studios que j'aime vraiment beaucoup. Je peux proposer des studios avec lesquels j'aimerais bosser, puis que c'est très très à l'écoute. Et on a la chance d'avoir des studios qui eux aussi sont à l'écoute de nos propositions. Donc écoute, on verra vers qui ça va me mener, mais jusqu'ici, quel que soit l'outsider, je serais contente de croiser sa route de toute façon.
Génial, on a hâte de voir les prochains livres en tout cas.
Surprise.
Et on va passer un petit peu sur ton actualité. Tu
Ouais.
as commencé du coup en novembre dernier les Video Game Master. Tu
Yes.
as déjà pu avoir du coup pour la première édition Gobert, qui est directeur
Ouais.
artistique chez Wild Wheat et illustrateur,
Tout
entre
à
autres.
fait.
Tu vas voir Cédric Perravernet, qui est senior concept artiste, qui sera du coup ton invité du 11 janvier. On enregistre un petit peu avant, on publiera sûrement un peu après. Et du coup, pour donner le contexte un petit peu aux auditeurs, dans les Video Game Master, c'est vraiment des masterclass que tu fais. C'est entre le masterclass et le workshop un petit peu, dans le sens
Ouais.
où tu as une interview du coup avec ton invité pour revenir un petit peu avec lui. Et après, c'est carte blanche.
Tout
C'est
à
quelque
fait.
chose qu'on voit très peu en France, pour le coup, bah, comme on le disait avant.
Ouais.
Ou bah, comment sont nés ces masterclass et c'est qu'est-ce que c'est un petit peu le message que tu voulais faire passer avec du coup avec ces événements-là?
Alors les masterclass, ça vient un moment en fait que je voulais organiser. Ça fait déjà quelques années que j'organise des événements autour de l'art du jeu vidéo, mais j'avais vraiment envie de créer un événement un peu à part, qui serait un temps fort régulier où on pourrait vraiment célébrer, communier l'art du jeu vidéo de manière, voilà, un peu plus à la fois professionnel et grand public. Alors c'est un peu deux idées contraires de dire ça comme ça, mais professionnel au sens où je voulais, voilà, aller chercher des professionnels aguerris de l'industrie qui pourraient faire des retours d'expérience, parler de leur métier et nous faire découvrir les coulisses d'une production. Et dans le même temps grand public, c'est-à-dire que je voulais pas des événements qui soient trop élitistes et qui s'adressent que à des professionnels aguerris. L'idée, c'était de pouvoir créer des ponts entre les différents publics, entre les différentes formes artistiques, et d'avoir quelque chose d'accessible, encore une fois, d'assurer la médiation. Je parle tout souvent de, j'utilise souvent ce mot-là, mais c'est ça, de faire la médiation entre un studio et un public. Et en fait, il s'avère que j'ai organisé une sorte de conférence en fait pour le Forum des images. Alors c'était, je sais déjà plus si c'était en 2022 ou en 2023. C'était une conférence où j'avais fait venir deux artistes qui ont travaillé sur le développement visuel de The Last of Us. Il y avait Jade Saber et Florent Lebrun. Les gens ont adoré l'événement, ça a vraiment beaucoup plu et je me suis dit qu'en fait, ça serait pas mal de pouvoir développer ça de manière plus pérenne. Donc j'ai commencé à réfléchir à des propositions et donc j'ai contacté le forum pour leur proposer ça et ils ont tout de suite été réceptifs. Et c'est comme ça que sont nés les Video Game Masters. L'idée, c'était voilà, de proposer des événements qualité qui s'adressent à tous et qui puissent vraiment mettre en avant les liens entre art et jeux vidéo, c'est-à-dire pas. Pas, ne pas parler, pardon, de l'art et des jeux vidéo, mais de l'art du jeu vidéo. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et voilà, donc on a commencé les événements assez récemment, en fait. Hein, premier événement, c'était en novembre. Je ne sais déjà plus, je suis perdue en ce moment-là. La fatigue du début d'année. Donc la semaine prochaine, on accueille Cédric Perravernet, donc qui s'est notamment fait connaître du public pour tout son travail de chara-design sur la saga Dishonored, qui est un artiste que j'admire énormément. J'avais eu la chance de faire une interview de lui pour mon premier ouvrage. On était encore resté en surface par rapport à ce qu'on pouvait dire de son travail, et donc c'était en toute logique que je lui ai proposé l'événement. Donc là, je sais qu'il nous prépare plein de belles surprises. Il est en train de retourner sa cave pour chercher après ses palettes de peinture traditionnelles qu'il utilisait quand il était plus jeune. Il s'est fait une mission de retrouver ces artefacts de peinture. Donc, je pense qu'on va vraiment passer un très bon moment. Et puis, bien sûr, l'autre petite spécificité de l'événement, tu parlais tout à l'heure des deux temps forts, interview et carte blanche. Mais je voulais aussi qu'on ait des dédicaces, en fait, enfin, une vente d'œuvres d'art dédicacées. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé aussi à Pixel 9, donc ma maison d'édition, d'être partenaire sur ces événements-là. Et donc, ce sont eux, en fait, qui se chargent de la reproduction, d'impression des œuvres. Et donc, on vend ces œuvres-là voilà, à la sortie de la masterclass pour que les gens puissent effectivement continuer les échanges avec l'artiste invité et puis garder un petit quelque chose, en fait, de ces rencontres aussi. C'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place pour ces événements-là.
Puis on est vraiment sur la notion de tout ce dont on parlait avant. Comme tu disais, ça s'adresse aux professionnels parce que, ne serait-ce que naturellement, je pense, si on s'intéresse aux jeux vidéo, forcément, ça va nous intéresser.
Absolument.
Le côté grand public est là parce que c'est un événement qui est payant, mais qui est vraiment peu cher, surtout en région parisienne, comparé à d'autres événements du même genre.
C'est le prix d'une place de cinéma, accessible. En fait, à peu près.
Et d'un petit cinéma. Ou pas d'un UGC ou d'un pâté, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Là, on peut avoir le popcorn, etc. avec.
Exactement.
Non, c'est vraiment là, cette démarche d'arrêter l'invisibilisation des artistes que tu... que tu continues de pousser, je pense. On parlait d'exposition, on parlait des livres, on parlait des studios. Là, c'est vraiment un artiste. Viens parler de toi, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, mais pas que ce que tu fais dans le jeu vidéo avec justement la vente d'illustrations. Je pense qu'ils sont assez libres de ce qu'ils peuvent amener.
Ouais.
Ça fait un peu partie, je pense, de cette démarche-là que tu as, du coup, d'arrêter un petit peu l'invisibilisation et de les mettre sur le devant de la scène, quoi.
Ouais, puis il y avait, c'est un truc qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est que... Alors, il y a beaucoup de changements aujourd'hui sur la manière dont les artistes peuvent communiquer avec le public. Jusqu'ici, il y en a beaucoup qui utilisent les réseaux sociaux pour faire parler de leur travail, vendre leur travail, etc. Et les récents mois ont montré que les artistes sont beaucoup moins sereins par rapport à ça, parce que la plupart des plateformes qu'ils utilisent, en tout cas une en particulier, a été menacée récemment. Et puis, il y avait toute cette mouvance, ces réflexions autour de, non pas l'arrivée parce qu'elle est là depuis un moment, mais en tout cas de l'implosion des outils d'intelligence artificielle dans l'industrie, qui ont quand même fait bouger pas mal les lignes récemment. Il y a beaucoup d'artistes, et à juste titre, qui étaient inquiets pour leur avenir, pour la manière dont ils pourraient faire valoir et préserver leurs droits. Et en fait, dans ce contexte-là, ça me semblait logique de mettre en place des événements qui ne soient pas juste des événements en ligne, où on ne peut pas se rencontrer les uns les autres, mais vraiment des événements physiques. Les gens viennent, les gens partagent des inspirations, des propositions d'emploi aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent réseauter aussi à l'issue de ces événements pour ça. Je voulais que les artistes soient là et qu'on puisse vraiment échanger de vive voix en face à face avec eux, qu'il y ait une rencontre qui ne soit pas juste Internet, mais voilà, qu'on puisse le toucher, quoi. Bon, voilà, et tout le monde qui prend les mains comme ça vers l'artiste. Non, mais c'était important de remettre l'artiste à sa juste place, qu'il ne soit pas invisibilisé et qu'il ait aussi d'autres canaux pour parler de son travail que ceux en ligne, en fait. Voilà.
Je pense que tu proposes au final, c'est l'alternative justement à la montée des IA.
Ouais.
On va pas rentrer dans le débat, mais je pense que ceux qui écoutent Point & Think connaissent notre position là-dessus. Je pense qu'on a la même. Voilà.
Ouais.
Mais c'est un des gros reproches qu'on fait à chaque fois, en tout cas avec ça, en dehors de tout l'aspect vol, etc. C'est qu'une IA reste un ordinateur qui manque tout le côté créatif, toute l'émotion.
Mm-hmm.
Là, du coup, de pouvoir parler à l'artiste, de pouvoir l'écouter, c'est exactement du coup l'opposé de ce qu'on va avoir quand on veut rentrer son prompt dans une journée ou ce qu'on veut. Là, on va avoir du coup l'artiste qui revient sur sa vie, sur ses impressions, on peut discuter avec lui, comme tu dis. Ça offre l'alternative parfaite, au final, la même année où on a eu cette explosion des IA, quoi. Donc c'est royal. Et c'est quelque chose où je pense de toute façon, on manque un petit peu de médias en France qui s'intéressent vraiment concept art, en tout cas cette partie-là du jeu vidéo. C'est quelque chose qu'on voit, on a de plus en plus de médias qui s'intéressent à l'actualité. Il y en a qui le font extrêmement bien, notamment des nouveaux médias comme Origami ou comme Canard PC, qui ne sont pas nouveaux, mais qui mettent en tout cas en avant des artistes aussi. Et malgré tout, c'est quelque chose qu'on manque. On voit un petit peu une mouvance qui change, par exemple, au Royaume-Uni avec l'agence Lost in Cult, qui propose des MOOC, mais surtout une collection qui s'appelle les Design Works, où ils ont notamment fait des artbooks pour le coup, mais plus poussés, un petit peu dans la même mouvance que toi. où ils ont travaillé déjà sur Sable et sur Citizen Sleeper,
ouais.
sur lequel Guillaume Saint-Germain avait travaillé. Mais c'est des propositions qui sont encore un petit peu timides. Est-ce que toi, c'est... question un petit peu rhétorique, mais est-ce que c'est une tendance que tu voudrais voir changer? Et comment tu voudrais le voir, par exemple, en termes de médias? Tu fais déjà un travail déjà assez, qui est assez balèze en termes de livres, en termes de propositions physiques, de lieux physiques, je veux dire. En termes de médias, est-ce qu'il y a des propositions que tu voudrais voir émerger, toi, à ce niveau-là?
Si on pouvait enfin parler de l'art du jeu vidéo sous l'angle de l'histoire de l'art, c'est-à-dire réinscrire le jeu vidéo dans une histoire de l'art, dans une histoire des images. On a pas mal de médias en France qui parlent des beaux-arts, par exemple. À chaque fois que on me consulte, pour un entretien, une interview, pour parler de l'art du jeu vidéo, au final, je suis toujours déçue à la suite de la publication parce que ils arrivent à faire des papiers de plusieurs pages où il n'y a pas un seul nom d'artiste jeu vidéo qui est mentionné. C'est-à-dire qu'on va chercher principalement des artistes contemporains qui s'inspirent du jeu vidéo dans leur esthétique pour faire des propositions originales. Et attention, ce sont des artistes qui sont tout à fait légitimes et dont j'apprécie aussi le travail. Mais c'est vrai que c'est toujours étrange d'avoir des papiers sur l'art du jeu vidéo, mais où il n'y a pas d'artiste jeu vidéo dedans. Enfin, pour moi, c'est un peu un non-sens. C'est comme faire un papier, sur la cuisine et puis de ne pas nommer un seul chef ou un seul membre de... Bon, c'est toujours un peu bizarre. J'aimerais vraiment, effectivement, avoir une revue qui puisse... resituer le jeu vidéo dans une histoire de l'art plus globale, de faire plus d'études de cas sur une approche esthétique, en tout cas de l'image aussi. C'est quelque chose que j'aimerais, mais hormis quelques initiatives en recherche universitaire, ça commence à pousser un peu de ce côté-là. Mais dans les médias généralistes, ça reste quand même très très timide, ce qui est un peu dommage. C'est sûr, moi j'aimerais bien avoir un média à moi où je puisse parler un peu de ces sujets-là, mais j'ai envie de dire que maintenant je travaille chez Pixel Love et que je fais ce que j'aime sous forme d'ouvrage, donc ça me va très bien, je ne vais pas me m'élancer là-dedans. Par contre, c'est vrai que s'il y avait au-delà d'un projet sous forme média, mais d'un projet tout court, s'il y avait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, ce serait de pouvoir monter ma propre agence. De concept art en France, qui sera à la fois une agence où on pourrait effectivement recruter des artistes en vue de les placer sur des productions, de pouvoir faire du consulting aussi, et puis surtout de pouvoir aussi faire de la formation, parce que ouais. Y a plein d'écoles qui sont très chouettes en France, donc qui forment effectivement les futurs artistes de l'industrie, et on a la chance d'avoir de belles écoles. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des éléments que moi je trouve importants dans la formation, qui ne sont pas toujours, qui sont un petit peu mis de côté. C'est vrai que là, pour le coup, cette année, j'ai pu mettre ça un peu en pratique parce que j'ai eu la chance d'enseigner dans une école en Belgique. Donc, c'était des cours en histoire du concept art et en direction artistique que je pouvais donner. Et je me rends compte que les jeunes qui étaient en formation, ils avaient une approche très presque pragmatique du métier, c'est-à-dire qu'on les pousse depuis un moment à produire de l'image, produire. Sauf que quand on leur dit, avant de produire, tu vas d'abord réfléchir à ce que tu veux faire, mettre en perspective ton travail, faire de la recherche documentaire, justifier tes choix de design. Et en fait, quand tu entres dans une mouvance un peu réflexive, j'ai l'impression qu'il y a un peu de crispation, en fait. Ils n'ont pas l'habitude de penser, conceptualiser autant un projet. Je leur dis que sur des productions de jeux vidéo, ils n'auront peut-être pas le temps de le faire. Des fois, tu n'as qu'une après-midi pour concevoir un personnage ou un décor, donc forcément, tu ne vas pas faire de la recherche documentaire pendant des heures. Mais dans le cadre de l'école, on te permet de le faire. Donc, parce qu'on te permet de le faire, il faut profiter de ce temps-là. Et y a toute une logique comme ça dans les apprentissages qu'il faut mettre en place. Et d'ailleurs, je suis un peu en réflexion de mon côté de me dire, est-ce que... pourquoi pas, est-ce que je pourrais potentiellement mettre en place un programme de cours à destination d'auditeurs professionnels ou non, de gens qui pourraient être intéressés justement à l'idée d'en savoir plus sur cette partie-là de la conception. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, peut-être que je le ferai si j'ai des journées qui passent de 24 à 48 heures, pourquoi pas. Faut que je le vois, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, un programme de cours aussi, mais vraiment sur un sur un secteur d'expertise particulier, hein, parce qu'encore une fois, je ne peux pas me substituer à une formation complète. Et les écoles françaises, il y en a qui sont vraiment de très très bonne qualité et qui ont une formation très chouette. Donc c'est plus du complément en fait pour les gens qui veulent aller plus loin sur ces questions du concept art et de la DA, effectivement.
Puis c'est intéressant comment tu le mentionnes, justement, de pouvoir leur donner cette capacité de réflexion, bah du coup qui donne un ruissellement derrière. Comme tu dis, ça se trouve, des fois, ils vont avoir 6 heures pour en faire un exercice, enfin, pour faire un concept en studio. Mais s'ils ont cette réflexion à la base, c'est un truc qui va découler de la réflexion qu'ils auraient fait pour le même travail sur 6 jours.
Ouais.
Et je pense que ce rythme, en plus, on le voit de plus en plus, et on entend parler pas que dans le jeu vidéo, mais des concepts artistes, aussi dans le cinéma, dans les effets spéciaux. Mmh. On a vu, sans parler de la qualité des effets spéciaux qu'on voit dans certains films, on entend et on voit de plus en plus passer d'articles sur comment sont traités les artistes qui travaillent dans le cinéma. On a vu à quel point il y a eu de plus en plus d'unions et de syndicats qui se créaient cette année.
Ouais.
Ça me fait une petite transition aussi pour parler concept art. La différence que tu verrais, par exemple, entre les concept art qu'on utilise en termes de cinéma et ceux qu'on utilise dans le jeu vidéo, on est un petit peu sur... on connaît des artistes qui font les deux, ou en tout cas qui basculent d'un projet à l'autre. L'avantage du cinéma entre guillemets pour les concept artistes, c'est que j'ai l'impression qu'ils peuvent switcher sur plus de projets, comme les pré-productions sont plus courtes, là où le jeu vidéo ils vont être attachés un petit peu plus longtemps. Ça serait quoi un petit peu les différences que tu vois entre les deux, par exemple, entre les deux domaines?
Alors c'est pas forcément évident, parce que en soi, qu'on travaille pour le cinéma ou le jeu vidéo, on va dire que l'essence du métier reste la même, à savoir mettre en image l'univers qui va être à produire par des équipes en interne. Après, ça va plus dépendre de la nature du projet, du temps, du budget mis à disposition. Si je prends juste le simple cas en fait de l'industrie jeux vidéo, très honnêtement, d'un studio à un autre, il y a des manières de pratiquer le par exemple, avec une approche très picturale de l'image, où là, tu as quasiment le concept art qui, à la base, reste un matériau de conception préliminaire qui est presque retrouvé in-game, tellement on a une vraie connivence, convergence entre le matériau préparatoire et le rendu final. À l'inverse, tu vas aller sur des productions où là, on va être, je ne sais pas, sur de la 3D, où on a une production qui est monumentale avec beaucoup beaucoup de décors, de personnages. Tu sais que tu peux pas tout prévisualiser parce qu'il y a trop à produire. Donc, ce qu'on va faire, par exemple pour du décor, c'est qu'on va aller prendre des captures d'écran de maquettes réalisées par des level designers avec des angles de vue intéressants, et on va dire au concept artiste de produire leur peinture en paint over par-dessus en fait ces captures d'écran, pour s'assurer que le concept art reste fidèle aux intentions et que ça ne bouge pas entre En fait, il y a vraiment plein d'approches de manières d'utiliser ce métier-là en fonction des outils et autres. Et dans le cinéma, si tu veux, ça reste un petit peu la même chose. La différence, peut-être, c'est que le concept artiste va beaucoup, beaucoup travailler en phase de pré-production, enfin conception pré-production. Et après, effectivement, il y a toutes les équipes VFX qui vont prendre aussi le relais derrière pour donner encore plus de force à ce qui a été designé. Sur la partie jeux vidéo, autant avant, ils intervenaient beaucoup plus en phase conception pré-prod, et après, ça s'arrêtait là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, les concept artistes accompagnent un projet de A à Z, c'est-à-dire vraiment de la phase de conception jusqu'à la phase de post-prod, en fait, là où c'est principalement de la communication. Donc, on va presque basculer dans le domaine de l'illustration, et néanmoins, il y a l'idée d'accompagner une production, de répondre aux besoins. C'est-à-dire que, un jour, on est en train de travailler un décor, on se rend compte qu'il manque un truc qui est bloquant pour les équipes. Donc, on appelle le concept artiste qui va designer ce qui manque aux équipes pour avancer. Ça peut se passer aussi comme ça pour le cinéma, hein, mais voilà. Puis, l'œuvre en elle-même est très différente. Concevoir une image interactive où tu sais que le joueur est plasticien, qui va pouvoir modeler ce qu'il voit à l'écran, contrairement à un film où tout est prédéfini, entre guillemets, c'est la vision du réalisateur, forcément, tu ne conçois pas l'image de la même manière. Il y a énormément de facteurs en fait, qui font que les deux applications du métier sont différentes. Mais voilà, je dirais que malgré tout, il y a beaucoup d'artistes qui travaillaient pour le cinéma, qui travaillent aujourd'hui pour le jeu vidéo, et inversement, il y a une vraie porosité entre les deux industries, ce qui fait que de plus en plus, les différences tendent à être gommées, effacées. Donc, je pense que c'est plutôt lié à la nature du projet plus qu'à la nature d'une industrie, en réalité.
Ok, bah, ça fait sens. Et je pense que c'est une des évolutions naturelles qu'on va voir aussi. Bah, comme on disait, il y a de plus en plus d'artistes qui font les deux, tout simplement,
oui, tout à fait,
qui changent d'un projet à l'autre.
Très clairement, très clairement. Ah, ouais.
On va approcher doucement de la fin, je pense, du podcast. Bah, deux questions pour toi. J'en ai une un petit peu ouverte. C'est okay. On sent toute la passion que tu as, en tout cas, pour comme tu dis, l'art du jeu vidéo, avec tout ce que tu mets en place. Qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi tu penses que tu fais tout ça? Du coup, cette volonté de mettre autant les artistes en avant, de mettre les studios en avant, de mettre cette partie-là du jeu vidéo en avant. Qu'est-ce qui te plaît au final? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans?
Je sais pas.
Je te prends un peu à chaud.
Ouais. <Ça sent bien. rire> Alors attends, là, grand effondrement à l'intérieur de moi. Quelle réponse je vais tenter de formuler à l'instant T? Je ne saurais pas dire ce qui... Je sais pas, en fait, quand tu es à ce point touché et inspiré par des gens, t'as qu'une envie, c'est de leur rendre ce qu'ils te donnent, je pense. Ça fait un peu cucu la praline de dire ça comme ça, mais bah, c'est un fait. Quand tu aimes quelque chose, t'as envie de le rendre en retour. Donc, je sais pas, c'est... ils m'ont touché par leurs images, par leurs intentions. Et j'avais envie de pouvoir mettre ça en lumière. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure où je me suis intéressée au projet de manière plus professionnelle, j'ai ressenti une vraie frustration finalement de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes très talentueux qui ne vivaient pas forcément pleinement de leur activité ou qui n'avaient pas la reconnaissance qu'ils méritaient pour leur travail. Et je trouvais ça dommage. Alors, certains le vivent bien. Voilà, d'autres qui voient ça comme plutôt une souffrance en fait de pas avoir cette reconnaissance là, de pas réussir à expliquer aux gens ce qu'ils font au quotidien, et le fait de pouvoir être un peu entre les deux d'assurer la médiation, je leur dis encore entre un studio et le public, c'est chouette. Et puis je pense que j'ai toujours eu une personnalité assez créative, j'ai toujours aimé beaucoup écrire, et le fait d'aujourd'hui de pouvoir passer par écrit, justement de mettre des mots, d'aider les gens à mettre des mots sur leurs intentions. Je me sens utile, en fait. Je me dis que voilà, je donne du sens à mon travail, à mon métier, et c'est forcément gratifiant. Ça me plaît beaucoup. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais...
Non, complètement. Bah, je suis toujours intéressé en fait, par ça, parce que, en tout cas, pour parler de moi là-dessus, de la même manière, je suis passionné par l'image, de manière générale, que ce soit du cinéma, des images, de la peinture, des BD. De un, parce que je suis incapable de décider ne serait-ce qu'un bonhomme bâton. C'est pas pour moi, tout s'apprend.
We are in the same team.
je suis convaincu que tout s'apprend, mais c'est un peu moins pour moi apparemment là-dessus.
Ouais. Ouais. C'est le moment où tu travailles avec un artiste et le gars ou la nana te dit « Ouais, je vais te montrer un truc, bon, franchement, c'est pas ouf, me juge pas. » Et là, il t'envoie un truc, tu fais « Waouh, ok, mais genre jamais j'aurai ton niveau de moche pas acceptable. » Donc genre, arrête de te rabaisser et juste accepte le fait que « Ouais, c'est vachement cool ce que tu fais.
» Ah non, c'est ça. Je sais qu'il y a eu ça, moi, plusieurs fois sur peu importe le médium, mais d'être vraiment scotché devant une image. Bah, scotcher devant une double page de BD, scotcher devant un paysage de JV. J'ai de plus en plus ça, ma petite échelle en tout cas avec le jeu vidéo, justement, à tomber devant ça et à se dire, mais qui a fait ça? Du coup, qui a travaillé derrière? Comment ça s'est créé, etc. Je pense que c'est... c'est ce que tu expliquais, c'est un petit peu ça aussi. Du coup, c'est qui? Ok, comment on va les mettre en avant du coup pour qu'il n'y ait plus tout le monde qui se dise c'est qui, et de passer des heures à trouver l'artiste qui a fait ça pour avoir quelqu'un qui n'ose pas en parler aussi.
Clairement. Et je crois que, tu vois, cette passion même pour le jeu vidéo, avant même la passion pour le, on va dire, l'expérience interactive, c'était une vraie fascination pour l'image, en fait. Ça a commencé par ça, c'est-à-dire que je sais pas, j'en ai déjà parlé à l'occasion d'une émission pour Canard PC, je crois, il y a quelques temps. Je sentais un peu psychopathe d'en parler, mais je dis souvent que... Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'expériences de somnambulisme, de rêves lucides, ce genre de choses. Mmh. Et c'est des expériences un peu particulières parce que quand tu rêves, tu as l'impression d'être un peu englué dans une image. Enfin, c'est une expérience qui est assez sensorielle, qui est assez étrange. Et quand j'ai commencé à, alors pas à jouer aux jeux vidéo, mais à regarder plutôt mon père jouer aux jeux, parce que j'étais trop petite à cette époque-là, il y avait ce côté très captivant de l'image, en fait. Tu vois l'image en mouvement. Puis en plus, c'était sur une espèce de grosse télé cathodique, le truc est énorme. Donc pour moi, c'était pas juste une image à plat, tu vois, c'était vraiment, tu pouvais rentrer dans la boîte et il y avait un monde dans la boîte, tu vois. Enfin, il se passait un truc un peu étrange comme ça. Et je crois que c'est voilà, une fascination pour l'image, pour la technologie. Et ça m'a vraiment amené petit à petit à m'intéresser de plus en plus à ça. Et je crois que c'est un truc de famille parce que le frangin aussi est tombé dedans. J'ai maintenant fait du concept art pour le jeu vidéo. Et voilà, je crois que la boucle est bouclée, ouais.
Génial. Et pour conclure doucement, ouais. Bah, y a pas mal de choses dont tu pourras pas nous parler, mais bah, comme on dit, là, tu as plusieurs casquettes. Ouais. On peut dire déjà que l'un de tes prochains événements, comme on disait, c'est la prochaine Video Game Master, du coup. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tes actualités ou même peut-être plus globalement des initiatives que tu voudrais voir un petit peu se développer?
Les milestones pour 2024? C'est une bonne question. J'avoue que d'habitude, je suis un peu en mode hyperactive à vouloir faire 10 000 projets en même temps parce que je m'ennuie facilement et que j'aime pas faire toujours la même activité de manière répétitive. C'est pour ça que j'ai toutes ces casquettes, faire de l'exposition, du bouquin, d'événements. J'aime bien être un peu à la croisée de tout ça parce que je pense que c'est justement à la croisée que tout a lieu. Mais étonnamment, pour 2024, ça va être plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire que je vais essayer d'en faire un peu moins et juste de pouvoir kiffer ce que je fais. Là, j'avoue que je m'éclate dans la nouvelle position que j'ai à Pixel Love. Je travaille avec des studios vraiment passionnants. J'apprends plein de choses. J'avoue que je suis un peu en mode éponge aussi en ce moment parce que je me vois un peu en phase d'apprentissage d'une certaine façon. Et j'ai juste envie de profiter de ces expériences-là. Il y aura 3 livres qui vont sortir de fait en 2024 pour moi, et je trouve que c'est déjà pas mal.
Oh, c'est trop bien.
Voilà, c'est déjà pas mal. Il y en a un bientôt qui sera annoncé, et 2 autres, ce sera plutôt pour fin 2024. Mais je me dis déjà 3 livres en une année, c'est déjà une belle actualité. Et puis les masterclass en plus à côté, donc je pense que je vais me concentrer là-dessus. Et puis si opportunité il y a, je pense que on saura venir me chercher. Et je te regarde pas du tout en te pointant du doigt. Personne ne sait de quoi on parle.
C'est pas la caméra.
Voilà.
Génial. Bah, écoute, on va conclure doucement là-dessus. Merci beaucoup Marine d'avoir voulu participer.
De rien, merci à toi. Merci beaucoup.
On espère que vous aurez apprécié cet épisode. On vous mettra tous les liens dont on a parlé dans la description, les liens vers les Video Game Master, vers la rediffusion de Pixel Love et du site de Marine Gamma. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.